Ben, les tribunaux sont fermés, donc je suis confi enfin, sont relativement fermés, puisqu'ils fonctionnent au ralenti. Je suis moi-même confiné, comme beaucoup de magistrats. Mais bon, il y a du travail, les écrits sont. Les jugements doivent être rédigés et les textes sont en préparation. Donc en fait, les tribunaux sont au ralenti, mais les urgences, si vous voulez, sont toujours garanties et maintenues. Urgence pénale en particulier, et également urgence civile dont on parle moins, à savoir les affaires d'enfants en danger, les comparutions immédiates, mais aussi les cas de violence conjugale, ils nécessitent des mesures urgentes également.
L'Association des avocats pénalistes vient de s'inquiéter, vous le savez sûrement, du confinement des droits de la défense en disant il y a des mesures d'exception qui ont été prises et par exemple le prolongement de la détention provisoire sans débat contradictoire de plein droit est devenu possible. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de s'inquiéter à propos de ce confinement des droits de la défense?
Oui, il y a des mesures exceptionnelles qui ont été décidées par le gouvernement, et en particulier cette loi sur l'état d'urgence sanitaire, qui consiste en particulier à prolonger les délais de détention provisoire de 3 mois à 6 mois, au-delà des délais légaux, qui sont quand même une atteinte majeure aux garanties des droits de la défense, à quoi il faut ajouter également la suspension du recours au Conseil constitutionnel jusqu'au 30 juin, qui est quand même une deuxième atteinte à la saisine du juge, qui me semble quand même problématique de ce point de vue, et qui prive, je crois, le gouvernement d'une réflexion sur le temps long et sur le temps court. Le temps long, le temps court, c'est le temps de l'action, qui est le temps présent, le temps où il faut effectivement faire face à l'urgence sanitaire. Mais le temps long, c'est le temps des droits fondamentaux. Et si vous supprimez l'intervention de la justice du point de vue général, vous évitez effectivement la réflexion sur le temps long, qui est le seul à garantir, si vous voulez, la continuité de l'État démocratique ou de l'État de droit au-delà du moment présent. Parce qu'il y aura aussi un moment d'après-confinement qu'il faut aussi anticiper.
Quelle est la différence entre un état d'urgence et un état d'exception?
Ah ben, l'état d'exception est une très vieille tradition française depuis le XIXe siècle, qui consiste au fond à anticiper dans la Constitution une crise de régime par des mesures exceptionnelles qui sont conférées à un gouvernement et qui mettent entre parenthèses les droits et libertés. L'état de droit, c'est l'état, je dirais, démocratique normal où pouvoir et contre-pouvoir coexistent et permettent de faire fonctionner la démocratie d'une manière régulière.
Comment combiner, comment concilier, comment conjuguer? C'est une question que beaucoup d'intellectuels, de magistrats et puis aussi de citoyens se posent. Comment est-ce qu'on conjugue la liberté, qui est la valeur cardinale, et le besoin de sécurité, la sécurité, la santé, la sécurité sanitaire? Comment est-ce que ça peut s'imbriquer sans qu'on ait soit trop de liberté mais plus de santé, c'est-à-dire qu'on n'est plus vivant, et soit à ce moment-là, nos libertés sont restreintes mais nous sommes en bonne santé?
C'est une grande difficulté. En grande partie, l'état d'urgence sanitaire supprime cette tension, cette contradiction, en donnant la priorité à, je dirais, la santé collective, à cette priorité sauver des vies, comme on le dit aujourd'hui, et met entre parenthèses cette tension contradictoire. Je pense qu'il faut au contraire l'affronter, la réfléchir et mettre en tension les libertés et la sécurité sanitaire, par une dialectique permanente qui doit être absolument préservée. Ce qui n'est pas simple, parce que dans le contexte actuel, l'urgence crée un effet d'union sacré, si vous voulez. Et les contre-pouvoirs qui permettraient de dialectiser cette tension sont mis entre parenthèses. L'effet d'union sacré crée effectivement du côté des contre-pouvoirs une solidarité avec le gouvernement, en quelque sorte. On l'a vu à l'égard du Conseil d'État, qui, au fond, en période de circonstances exceptionnelles, tend à demander au gouvernement d'être encore plus vigilant dans le respect de la sécurité et oublie quelque peu le réflexe de préserver des
son
libertés.
rôle. Dans une interview récente, Denis Solas, vous avez dit: « Je redoute la tentation machiavélienne de la part du gouvernement de donner plein pouvoir pour toute mesure qui sera des mesures liberticides, utilisation de drones, surveillance des citoyens, éventuellement traçage numérique. » Vous n'allez pas un peu trop loin avec cette expression de tentation machiavélienne?
Non, je fais allusion à une phrase du Prince de Machiavel, où Machiavel évoque, si vous voulez, quand la cité est apeurée, effrayée, par une épidémie ou un trouble quelconque, elle a la tentation de donner au gouvernement les pleins pouvoirs, en quelque sorte, pour se libérer du fardeau de cette peur qui l'accable. Donc cette tentation, elle existe. Machiavel l'avait noté en son temps, mais elle existe de tout temps. Michel Foucault l'avait admirablement montré aussi dans ses travaux, notamment Les Anormaux, où il montrait que dans ces périodes d'épidémie, le modèle de la peste est un modèle qui permet effectivement, disait-il, de donner au pouvoir une très grande force permettant effectivement d'investiguer sur les populations pour élucider le mal et l'extirper en dehors de la cité. Donc de tout temps, les épidémies de ce type, cet état d'urgence, conduit les pouvoirs à renforcer leur hégémonie avec l'adhésion des populations pour effectivement répondre à une attente de sécurité que eux seuls pourraient effectivement résoudre.
Denis Salas, des intellectuels comme le philosophe italien Giorgio Agamben, qui est du côté des ingouvernables, ou encore François Sureau, aujourd'hui, ce matin, sur une radio nationale, évoquait la possible menace d'une biopolitique, c'est-à-dire que tout serait mis au service de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une biopolitique, et en quoi est-ce menaçant ?
La biopolitique, c'est Michel Foucault, là encore, hein, qui nous l'avait enseigné en son temps. C'est l'alliance du pouvoir politique et d'un pouvoir sanitaire ou d'un pouvoir médical. C'est une sorte de médicalisation du pouvoir politique qui va porter sur la vie nue, disait Foucault. Et Agamben a repris cette formule, c'est-à-dire sur le grain de notre individualité, disait-il. Et aujourd'hui, on voit réapparaître effectivement des nouvelles techniques, alors peut-être pas encore en France, mais en tout cas en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, des techniques où par le biais de nos smartphones, ou par le biais de la reconnaissance faciale, ou par le biais des caméras thermiques, on peut effectivement avoir une capacité d'intrusion dans la vie privée au nom du bien commun, au nom de la sécurité collective et de la santé de tous, et effectivement entrer dans la vie privée des gens pour obtenir des informations qui permettront au bout du compte de cibler cette population afin de la préserver de la contagion de l'épidémie. C'est ça la biopolitique.
Denis Salas, vous savez qu'au lendemain du vote de la loi d'urgence sanitaire, le gouvernement a confié précisément à la chercheuse Françoise Barré-Sinoussi, qui est prix Nobel, une mission à propos du backtracking, du traçage numérique, pour permettre d'identifier les gens qui portent le virus et puis éventuellement de les isoler des autres. Vous pensez qu'il faut être très vigilant, que nous devons, nous, citoyens, être vigilants par rapport à cette possibilité de traçage numérique ?
C'est la solution qu'a utilisée la Corée du Sud,
oui.
C'est-à-dire non pas le confinement, mais au contraire le traçage de la population afin de couper les chaînes de transmission et d'éviter la propagation de l'épidémie, qui a fait ses preuves, mais qui en même temps comporte des atteintes massives aux libertés individuelles. Est-ce que, ce sera l'objet de cette réflexion qui est entamée, est-ce que nous sommes prêts à accepter le sacrifice de nos libertés pour une efficacité sanitaire qui a été effectivement prouvée? C'est un débat que nous devons avoir, mais qui me semble être absolument décisif aujourd'hui.
Merci Denis Salas, et aux élèves de terminale qui nous regardent, je leur dis, vous avez 4 heures pour écrire sur cette question passionnante que vous venez de soulever et d'évoquer. Merci encore.